I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Bien vieillir, rester en forme, voire devenir centenaire, c'est possible. Mon invité d'aujourd'hui y croit fermement et nous enjoint à nous jeter à corps perdu dans une nouvelle vie faite de jeûne, de jeu et surtout de plaisir pour révéler notre part d'éternité. Vu comme ça, ça donne vraiment envie. Médecin cardiologue, nutritionniste, spécialiste de l'optimisation de notre capital santé et auteur à succès, et maintenant même Instagrammeur à succès, on en parlera, il envisage le jeûne séquentiel non comme une simple pratique alimentaire à la mode, mais comme une vision de la vie propice au rajeunissement aussi bien physique que cérébral. Dans son dernier livre, « Votre avenir sur ordonnance », paru aux éditions Robert Laffont, il nous propose de nombreuses méthodes inédites qui vont impacter non seulement les intestins, mais aussi le cerveau, l'immunité, le sommeil et la sexualité. Grâce à celles-ci, chacun peut venir activer sa pharmacie intérieure pour mener une vie longue et en bonne santé. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui à nouveau dans Métamorphose le docteur Frédéric Salmane. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, je vous ai déjà demandé hors antenne si vous alliez bien, mais j'imagine, comme vous le dites dans votre livre, que vous avez fait peut-être vos 40 minutes de vélo ce matin.
C'est un rituel.
Ouais.
Je me lève le matin, je bois du thé vert, un expresso et je démarre ma journée. Je fais tous les jours 40 minutes d'exercice physique sans s'arrêter. C'est comme de se laver les dents. C'est une obligation. Quand on fait ça, quand on fait minimum 30 minutes, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire.
Vous faites quoi, du vélo plutôt ou vous variez les plaisirs?
Alors, j'ai un vélo d'appartement.
Ouais. Oui, on vous a vu sur les réseaux sociaux. C'est oui. Pour ça que je disais ça avec votre
et
vélo.
J'ai ce vélo à la maison. Si j'ai le temps le week-end, je vais courir ou je vais nager, mais sans m'arrêter, avec intensité. Et si je marche, je marche une marche très rapide en transpirant. Donc c'est important parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre, c'est après qu'on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier, mais qui dure que 24 heures. Il y a des gens qui disent « je fais du sport le week-end ». J'en dis « tant que vous y êtes, vous l'avez donc le week-end ».
Ouais, c'est intéressant. Hein.
C'est quotidien.
Alors, quand vous dites que vous faites ces 40 minutes tous les jours, je me suis demandé, on en discutait un petit peu tous les deux hors antenne, vous dites « je suis vraiment un homme de rituel, il faut cette rigueur et je vous admire pour ça parce que ce n'est pas toujours évident de l'avoir ». C'est venu, vous, avec le temps ou vous avez toujours eu cette sorte de discipline ?
C'est venu avec le temps. Disons qu'il faut des rituels pour que ça fonctionne. Donc, j'ai un certain nombre de rituels, comme par exemple, je fais le sport tous les jours. Après, je prends une douche froide 3 minutes. Ça me booste, ça me fait une décharge d'endorphine. Je vois la vie en rose toute la journée. Et ça booste l'immunité en même temps. Et ces rituels sont importants. Vous savez, beaucoup de gens, je le vois parce que je suis médecin à l'hôpital, s'intéressent à leur santé le jour où il y a un pépin.
Ce n'est pas le moment, en fait.
Et en médecine préventive, on est formidable. En curatif, on n'est pas toujours très bon. Détecter un petit cancer quand c'est minuscule, c'est facile. Quand il y a des métastases partout, c'est compliqué. Prévenir un accident vasculaire cérébral, c'est bien. Mais quand il y a une hémiplégie, on n'a plus grand-chose à faire. Donc, en fait, d'ailleurs, je me suis intéressé à un sujet. Je consacre ma vie à la médecine préventive. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'échoue? J'échoue parce que 95% des gens à qui je recommande d'arrêter de fumer, faire de l'exercice, faire attention à leur poids, etc., ne m'écoutent pas. En fait, vous savez, depuis le début de l'humanité, il y a eu 108 milliards de morts. Personne s'en est sorti. Et en fait, quand on réfléchit à la condition humaine, c'est comme si nous étions tous dans le couloir de la mort, condamnés à mort. Et on vous dit, on ne sait pas quand vous allez mourir, est-ce que vous allez souffrir beaucoup, un peu, énormément? Imaginez, mais c'est insoutenable. Vous dites aux gens, 100% d'entre vous sont condamnés à mort. On ne sait pas quand ça viendra, demain ou dans plus longtemps, et vous souffrirez. Mais c'est insoutenable. Donc, les gens ont besoin, par rapport à cette situation violente, d'avoir un mode de compensation. Souvent, un mode de compensation qui peut être parfois un petit peu dangereux, genre je défie la mort, je suis plus fort qu'eux. Alors, un mode de compensation intéressant, c'est les gens qui croient dans une religion, par exemple. Et c'est vrai, d'ailleurs, on a observé que les gens qui croient vivent 7 ans de plus que les autres.
Ah oui, on en avait parlé dans notre dernière émission.
C'est un mode de compensation, mais de moins en moins de gens croient. Donc, il y a des qui vont compenser en mangeant beaucoup, bien obèses, qui fument beaucoup, qui se droguent, qui boivent beaucoup d'alcool, une hypersexualité. Je veux dire qu'il y a un mode de compensation.
Dans les addictions, là, ce qu'on
dans les addictions. Oui. Donc, quand quelqu'un, je le vois avec un problème, d'abord, maintenant, j'essaie de comprendre quel est son mode de compensation. Parce que c'est sa béquille. Si on retire la béquille, il va tomber. Et c'est pour ça que dans la prévention, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, si on veut comprendre la prévention et vivre longtemps en bonne santé, il faut comprendre comment on compense par rapport à la dureté de la condition humaine. Jean-Paul Sartre disait « La vie, c'est comme une panique dans un théâtre en feu. »
Et Montaigne, vivre, c'est apprendre à mourir.
Oui, mais quelque part, beaucoup de gens vivent avec le temps de l'enfance comme s'il y avait un temps immense devant eux.
C'est vrai.
Et ils disent, j'ai l'éternité. On voit des gens qui compensent en cumulant des richesses incroyables. Mais ça sert à quoi? C'est ridicule.
Alors, quand on parle justement des émotions et de ces compensations, des addictions, est-ce que ça veut dire pour pouvoir suivre vos conseils, vous parliez de vos patients qui finalement n'arrivent pas à arrêter de fumer ou ne se mettent pas au sport ou perdent du poids par exemple, est-ce qu'il faut passer par une case psychothérapie pour mieux comprendre ces béquilles et ces compensations?
D'abord, il faut essayer de comprendre. Vous savez, les gens qui vivent plus longtemps ont un sens profond dans leur vie. Si quelqu'un n'a pas de sens dans sa vie, ça devient très compliqué. Il manque déjà un moteur. Ensuite, il faut essayer de discuter pour comprendre comment il compense et est-ce qu'on peut compenser autrement. Est-ce qu'on peut trouver un mode de compensation par rapport à l'angoisse humaine légitime qui soit qu'il ne mette pas en danger? Donc, c'est un travail de profondeur.
Oui, c'est intéressant et évidemment, on va y revenir. Vous dites qu'une mort à 120 ans, vous êtes provocateur, est une mort prématurée. Or, l'espérance de vie en bonne santé recule, je crois, ces dernières années en France et dans le monde.
Parce que justement, les gens sont angoissés et font n'importe quoi. Vous savez, on parlait de l'exercice physique qui est vraiment un super médicament pour vivre longtemps. En France, il n'y a que 9% des Français qui font 30 minutes de marche par jour. Mais c'est ridicule. Donc, malgré tous les messages, ça ne marche pas. Vous savez, je me suis intéressé aux zones bleues. C'est des zones sur la planète où il y a énormément de centenaires. Je les ai toutes visitées. Il y a le Japon, Okinawa, où il y a un nombre incroyable de centenaires. Et par rapport, il y en a en Sardaigne, il y en a en Crète. Et dans ces zones, ils mangent plutôt du poisson, un petit peu de poisson, beaucoup de légumes, ils s'activent, etc. Et j'en parle dans mon dernier livre. Je suis allé dans la dernière zone que je n'avais pas visitée, au Costa Rica, une zone où Nicoya, où j'avais besoin de comprendre, parce qu'il y avait beaucoup de centenaires, mais des centenaires particuliers, parce que dans les quatre autres zones, c'est des femmes, et là, c'est des hommes. J'ai rencontré des hommes de 110 ans, 105 ans, 110 ans, en pleine forme. Et là, ce n'est pas du tout le modèle alimentaire, légumes, etc. Et j'ai fini par trouver, ils consomment des aliments très fermentés, dont certains modes de café extrêmement fermentés. Et il se trouve qu'on a trouvé dans la flore intestinale des centenaires des bactéries très particulières protectrices. Donc, j'ai trouvé une nouvelle piste. Donc, en fait, on s'aperçoit que pour vivre longtemps en bonne santé, c'est jouable. Mais il faut devenir auto-entrepreneur de sa santé et s'y prendre le plus tôt possible. Donc, on est programmé, oui, je le pense profondément. Jeanne Calment a montré la voie jusqu'à plus de 120 ans. Mais ça veut dire qu'il y a des règles à respecter. Moi, j'ai remarqué que j'ai une petite cohorte de centenaires que je suis.
Ah oui?
Ils ont un point commun. Ils ont tous une activité, à la fois intellectuelle et physique. Einstein disait, la vie, c'est comme la bicyclette. Si on arrête de pédaler, on tombe. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Si je plate vos deux jambes pendant 2 mois pour qu'elles se reposent, quand je casse le plateau, le ton est par terre, il n'y a plus de muscles. Donc on a besoin d'activité, tout simplement pour vivre.
Intéressant. D'ailleurs, quand vous parliez de fermentation, je pensais aux Asiatiques qui, contrairement aux Européens qui mangent un soja non fermenté, eux consomment du soja plutôt fermenté.
Mais oui, parce que pour la flore, ça change tout. On sait qu'il y a des liens très importants entre la flore intestinale et la longévité.
Oui, alors justement, c'est quand même le cœur, un des grands sujets de votre livre. De la santé de nos intestins dépend notre santé globale et aussi celle du cerveau.
Oui, c'est important parce que, alors, je parle beaucoup du jeûne séquentiel,
oui.
Qui est quelque chose d'extraordinaire, que je pratique d'ailleurs. Le jeûne séquentiel, je vais peut-être rappeler, si vous voulez.
Oui, rappeler les fondements.
Pendant 16 heures, on arrête de manger. C'est vrai qu'à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu à des cancers, Alzheimer, etc. Quand on pratique le jeûne séquentiel, on renforce l'ADN, on laisse au corps, aux cellules, le temps de régénérer, de se réparer. Tous les 5 jours, on refait complètement la tapisserie des intestins, toutes les cellules, pour leur laisser le temps de souffler.
Et 16 heures, c'est assez, hein?
Oui, digérer, c'est pas rien. Et on fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le côlon, le foie, les reins, des hormones, des enzymes, une usine. Et tout se passe comme si dans une vie, nous avions un nombre de repas limité à prendre. Le jeûne séquentiel augmente l'immunité. Ça fait qu'on meurt à un moment donné parce que l'immunité, elle chute à partir notamment de 30-40 ans, ça chute. La preuve, à 20 ans, il n'y a pas beaucoup de morts. À 80 ans, il y en a beaucoup. Ça fait chuter l'inflammation qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On sécrète l'hormone de croissance anti-vieillissement et une petite molécule BDNF qui augmente l'acuité cérébrale. Donc en fait, c'est une cure de jeunesse, de jouvence. Et en plus, ça va laisser à la flore intestinale le temps de laisser pousser des bactéries protectrices qui sinon n'ont pas le temps. Si vous êtes tout le temps avec un flux alimentaire qui n'en finit pas, ça ne va pas.
Intéressant. Vous pourriez nous rappeler comment fonctionne le système intestinal en lien avec notre système aussi émotionnel et avec ce fameux nerf vague, le système sympathique et parasympathique.
Alors on a un câble. Oui. Entre le cerveau et les intestins. Et ce câble est très important, s'appelle le nerf vague. Et en fait, c'est en lien direct. C'est-à-dire que nos émotions vont retentir sur les intestins retentissent sur le cerveau. Et ce nerf vague joue un rôle très important, parce que s'il est stimulé, on est relaxé. Et quelque part, le nerf vague joue un rôle très important. Il y a même aux États-Unis une expérience intéressante qui a été faite. Ils ont pris des gens qui étaient obèses, ils ont mis des pacemakers sur le nerf vague et les gens ont minci parce qu'il y avait une stimulation de relaxation. Donc en fait,
je crois qu'à Grenoble, il y a un professeur qui a lancé ça.
Oui, ouais. C'est très intéressant parce que ça montre à quel point ce nerf est important. En cardiologie, on sait qu'il y a des points quand les gens ont le cœur qui démarre à toute vitesse, avec certains points techniques au niveau, en appuyant sur le nerf vague au niveau du cou, le cœur se ralentit tout de suite. C'est un geste que j'utilise en urgence.
Oui.
Donc en fait, c'est un nerf très important. On peut s'amuser à le stimuler un petit peu, c'est ce que j'explique dans le livre avec des petites manœuvres simples, mais qui relaxent et qui permettent de reprendre la main.
Ce nerf vague, justement, pendant les études de médecine, il est assez peu enseigné. On est en train maintenant de s'apercevoir de l'importance de
cet organe. Oui, ce qui est extraordinaire en médecine, on découvre tout le temps. On n'en finit pas d'apprendre. Et en fait, c'est un nerf qu'on peut stimuler, qui est important parce qu'il apporte une relaxation, une détente. Et on en a tellement besoin.
Comment est-ce qu'on peut le détendre, alors, justement, si on devait donner des petites astuces?
Oh, il y a plein de petites choses très simples. Par exemple, si vous gonflez les joues à fond, vous le relaxez un petit peu.
Le chant aussi, je crois.
Oui, tout ce qui va faire. Vous savez, le nerf vague, c'est un formidable outil que nous avons pour nous détendre. Il faut juste savoir son... Il y a un mode d'emploi.
C'est ça, il faut savoir l'utiliser. Alors quand même, on parlait du jeûne séquentiel. La meilleure façon de le faire, ce serait plutôt dans quel sens? Parce que beaucoup de personnes mangent le soir, sautent le petit déjeuner et reprennent le déjeuner à midi. Vous, par exemple, vous ne faites qu'un repas par jour?
Alors, je vais dire que la règle du jeûne séquentiel, c'est d'écouter avec bon sens les signaux de son corps. Si vous n'avez pas faim du tout, ça ne sert à rien de se mettre à table. C'est faim. Alors, le premier réflexe, c'est que beaucoup de gens confondent la faim et la soif. Si vous sentez que vous avez faim, vous êtes un peu fatigué. Souvent, c'est juste de la déshydratation. Prenez 2 grands verres d'eau, attendez un quart d'heure.
Et on voit bien.
Ouais. Et souvent après, on se sent en forme, on n'a plus faim. Donc d'abord, écoutez avec bon sens les signaux de son corps. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils n'ont pas faim du tout. À quoi bon se forcer à manger? Boire, oui. C'est important de bien s'hydrater avec des boissons sans calories, sans sucre, sans édulcorant. Mais boire, bien hydraté, ça c'est important au fil de la journée. Le jeûne séquentiel, ce n'est pas un jeûne hydrique. C'est toute la journée, penser à... Moi, j'ai en permanence sur mon bureau, j'adore les tisanes, des tas de tisanes, et je me fais des tisanes toute la journée.
Vous avez un petit bar à tisane?
Ah ouais, j'adore ça.
Moi aussi, j'adore ça, je suis mal à tisane.
De l'hibiscus hier, du thym, je change tout le temps. Donc, bien s'hydrater. Et puis, ce n'est pas la peine de se mettre à table dans la journée si on n'a pas envie. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de jeûne séquentiel. Ils font des hypoglycémies. 10%, je dis n'en faites pas. Ce n'est pas pour les adolescents, pour les enfants ou les femmes enceintes. Mais s'il n'y a pas de contre-indication de votre médecin, faites l'essai de passer, par exemple, à 2 repas au lieu de 3. Vous savez, nos ancêtres étaient, en fait, à 1 ou 2 repas, mais 3 ou 4, on ne sait pas gérer.
C'est trop.
Aujourd'hui, vous savez, que ce soit en Suisse, en France ou partout, on ne meurt pas de faim ou de carence, on meurt d'excès. Donc, simplement, écoutez les signaux de notre corps et mangez. Quand on a faim, déjà, vous allez voir, ça change absolument tout. Et vous savez, digérer, on est un peu fatigué quand on digère. Et notre énergie, elle n'est pas là pour réparer nos cellules. Moi, je sais que si j'ai pas faim en ce moment, là, vous me donnez un repas, je vais être crevé toute l'après-midi. Je vais être fatigué. Donc, ce n'est pas la peine de mettre son... quelque part, son corps en surcharge quand il n'y a pas besoin.
Alors, c'est vrai que culturellement, il y a une fonction sociale beaucoup autour du déjeuner. C'est-à-dire que des personnes qui sont dans des bureaux, ils vont déjeuner avec leurs collègues. Le soir, c'est le repas de famille. Donc, si on a des enfants un peu plus jeunes, c'est le moment où on partage. Ça peut être plus compliqué dans des situations que si on est... soit les enfants sont partis de la maison, soit on est célibataire, ou on fait un peu ce qu'on veut, ou on est auto-entrepreneur, voilà.
Alors, moi, je suis confronté à ça.
Oui.
Parce que souvent, mes collègues me disent « Allez, viens déjeuner. » Je leur dis « Écoutez, moi, je veux bien partager, je prends une tisane avec vous. » Il n'y a aucun souci. Mais je ne vais pas sacrifier ma santé pour me faire aimer les autres. Il n'y a pas de négo. Il faut simplement.
Ils sont habitués maintenant, j'imagine. Comment? Ils sont habitués maintenant.
Ah, ils sont habitués. Mais je. Comment dire? Vous savez, notre priorité, c'est la vie et la santé. Et les gens, la plupart des gens le mettent en deuxième plan. Alors que c'est la priorité. Vous n'êtes plus en bonne santé, vous êtes mort, c'est cuit.
Terminé.
Donc en fait, si. C'est pour ça que j'écris des livres, pour expliquer le mode d'emploi pour continuer la partie dans de bonnes conditions. Certains me disent « Non, je veux profiter, je mourrai de ma belle mort. » Mais les gens qui meurent de leur belle mort, c'est rarissime. Ils vont souffrir pendant des années. Donc en fait, investir dans sa santé, se dire que, vous savez, connaissez-vous beaucoup d'automobiles qui ont 50 ans et qui roulent tous les jours? Il n'y en a pas beaucoup, pourtant c'est de l'acier. Ben nous, humains, et ce n'est pas de l'acier, on doit continuer la partie. Donc, il faut extrêmement bien surveiller et connaître des tas de petites règles très simples qui vont faire que vous évitez de tomber de malade pour rien.
Vous aviez cette conscience-là parce qu'en tant que médecin, vous avez vu les patients qui arrivaient en bout de course, qui voulaient profiter de la vie et qui finalement ne mouraient pas de leur belle mort, mais de, oui. plutôt de souffrance.
Et puis, vous savez, je vois tellement, depuis que j'exerce, de cas où je dois annoncer à des gens que la partie est finie. Et je me dis, mais seulement si je les avais vus quelques années plus tôt. Je me souviens, j'ai vu une jeune femme qui vient me voir en consultation et je lui trouve, une quarantaine d'années, un cancer de l'œsophage. Mal placé. Je lui dis, c'est cuit. Elle dit, mais je ne comprends pas. Je fais du sport tous les jours, je ne fume pas, je fais très attention à ma nutrition, je n'ai pas de stress, je ne comprends pas. Je lui dis, vous buvez certainement brûlant depuis toujours. Elle me dit, oui, comment vous le savez? Je lui dis, parce que ça donne des cancers d'œsophage. Elle avait l'habitude de boire son thé, son café brûlant. Or, quand on boit brûlant, on fait des cancers d'œsophage. Plus souvent, c'est le cas au Japon. Donc, il y a des centaines de petits conseils que j'ai voulu donner dans mes livres pour que justement éviter, en connaissant des petites choses très simples, il y en a énormément, d'être malade pour rien.
Alors justement, vous donnez aussi des conseils de bonne santé de la flore intestinale et ça commence par le matin. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà en se levant? Alors vous buvez, vous l'avez dit, du thé vert, vous aimez bien, et puis un expresso dès le matin.
Je le prends plutôt vers 11h pour être précis.
D'accord, et donc c'est pas au réveil, hein, on est d'accord.
Le matin, je bois beaucoup de thé.
Oui.
J'adore le thé vert. Je m'hydrate bien. Je laisse un petit peu tiédir, je choisis des... Alors, je m'amuse à choisir des thés qui ont des goûts différents. Et puis, ensuite, je fais du sport bien hydraté à jeun. Et ça me donne une énergie formidable. J'ai l'impression de me recharger. Vous savez, comme ces appareils qui se rechargent quand on les...
Oui, ça veut dire que vous avez un bon sommeil, alors?
Oui, en général,
oui.
La plupart du temps, je sors très bien.
Parce que c'est important, ça aussi, pour la flore intestinale?
Ah, très important, parce que vous avez aperçu que quand on dort bien, eh bien, il y a une meilleure flore. Par contre, il ne faut pas trop dormir, plus de 9 heures. On s'est aperçu d'ailleurs que les gens qui dorment plus de 9 heures ont plus de morts subites. Et au niveau de la flore, ce n'est pas bon non plus. Donc en fait, faut la bonne durée, 16h30, 8h. C'est très bien. Trop peu, c'est pas bien parce que le système immunitaire, on est plus sensible au virus, par exemple, si on dort peu. Mais si on dort trop, c'est pas bon non plus.
Faut la bonne dose.
C'est comme pour tout, c'est-à-dire que c'est la dose qu'il faut connaître, soit pour le café, pour tout. Il y a une bonne dose et puis il y a des doses qui vont pas du tout.
Alors, c'est vrai que si on reste sur le volet alimentation, souvent, on aimerait faire un jeûne ou manger moins, mais il y a cet aspect pulsionnel compensatoire dont vous parliez très bien au début de l'émission. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette sensation de satiété? Vous avez parlé de boire, par exemple, un verre d'eau pour savoir ne pas confondre la soif et la faim. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Vous savez, il y a déjà un truc. Regardez au restaurant, le nombre de gens qui mangent comme à une vitesse folle. Ça me frappe.
La vitesse, oui.
Plus vous mangez vite, plus vous allez avoir mangé beaucoup. Il y a deux façons de s'arrêter de manger. Soit parce que l'estomac, qui fait 4 litres quand même, est plein et les récepteurs à la pression, les baroréceptors sont distendus, on dit on ne peut plus en mettre. Trop tard, vous avez déjà eu. Par contre, si vous arrêtez 5 vraies minutes au milieu d'un plat, on laisse le message satiété arriver au niveau du centre de la satiété dans le cerveau et on donne un gros coup de frein. Vous avez fait l'expérience au restaurant. Quand on attend trop longtemps le dessert ou un plat, on n'en a plus envie. Donc, il faut rééduquer et surtout pas manger vite.
Bien mastiquer, quoi. Bien mâcher.
Bien mastiquer, parce que quand on mastique bien, il y a une meilleure digestion. On aura un ventre plus plat parce que les enzymes ont le temps d'agir. On a une meilleure satiété, une meilleure digestion. Donc, manger très vite. Moi, parfois, je suis frappé, je vois des gens manger, mais on dirait, vous savez, ça me fait penser, quand on donne une écuelle à un chien, il se jette dessus et l'avale. Mais on est...
Oui, quelque chose de glouton, là.
De glouton
ouais, c'est le terme.
Ah non, mais je suis frappé, je les vois, on dirait des aspirateurs. Mm. Alors, comment voulez-vous avoir une bonne satiété, une bonne digestion dans ces conditions ? Impossible.
Ouais, alors là, il faut se rééduquer quand on est glouton comme ça et qu'on avale de cette manière.
Alors, je ne vous dis pas, les gens qui déjeunent avec moi, ils sont une aventure. Hein, parce que je commande tout.
Un jour, je viendrai déjeuner avec vous, mais vous allez juste prendre
une tisane. On s'en rappelle longtemps.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution pour rajeunir nos intestins ? Vous dites qu'une bonne santé parodontale, c'est important aussi.
C'est essentiel.
Oui.
Parce qu'on s'aperçoit que par rapport aux dents, qu'il y a des liens avec des tas de maladies cardiovasculaires. Vous savez, par exemple, si vous avez une valve un tout petit peu faiblarde, qui a une petite fuite, s'il y a un germe des dents, j'ai un ami qui a eu ça il n'y a pas longtemps, on a dû remplacer la valve. Il y a des liens avec la maladie d'Alzheimer. Donc, avec certains cancers, donc, il est essentiel de voir son dentiste au moins tous les ans et vérifier qu'il n'y a pas de foyer infectieux dentaire. Mmh. C'est tout simple. Les germes vont parachuter sur les organes, sur les intestins, et c'est des germes assez méchants. Donc, une bonne santé dentaire, c'est une obligation.
Surtout pour des gens peut-être parfois qui ont eu des implants ou qui ont des problèmes de gencives, là il faut se poser quand même des questions.
Il faut vraiment jeter un coup d'œil sur ses dents, demander à un professionnel de regarder, vérifier qu'il n'y a pas de foyer infectieux, parce que en dehors des problèmes directs dentaires, il y a des problèmes sur l'organisme entier, ça crée de l'inflammation et on sait que la porte d'entrée est de toutes les maladies.
Il y a encore assez peu de médecins qui sont à votre avis informés sur ce sujet-là ?
Vous savez, le principal sujet, c'est la prévention.
Oui.
En consultation, vous faites une ordonnance à un médicament, ça va très vite. Mais moi, j'ai commencé à écrire des livres, pourquoi ? Pour dire tout ce que je n'avais pas le temps de dire en consultation, parce que la prévention, ça prend un temps fou.
Oui, bien sûr.
Et je dois le dire aussi parfois des choses que je n'osais pas dire.
Oui.
Donc.
Oui, puis vous répétez toujours la même chose, sinon.
Oui, et quelque part. Pourquoi j'ai écrit ces livres ? Pour essayer d'expliquer, de donner des messages, comme si j'avais une salle d'attente avec 3 millions de personnes, quoi.
C'est ça. Autre astuce que vous donnez, c'est aussi certains gargarismes avec des huiles essentielles dans la bouche, avec de la moindre poivre et des petites choses comme ça.
Ah, il y a des choses par rapport au gargarisme.
Oui.
Je me souviens, j'étais parti au Japon faire le lancement d'un de mes livres. Et à la fin, un journaliste vient me voir en me disant, vous savez, vous avez oublié une chose très importante. Je dis, mince, c'est quoi ? Il me dit, au Japon, on a l'habitude de se gargariser avec de l'eau salée ou gazeuse parce que ça nettoie les petites cryptes qu'on a au niveau des amygdales, tout ça. Et on fait 30% d'infection ORL en moins.
C'est beaucoup, hein, 30%.
Alors, j'ai regardé dans les études japonaises, c'était vrai. Et du coup, dans le livre suivant, j'en ai parlé. Et c'est pour ça que tous les matins, je me gargarise avec de l'eau gazeuse. J'ai un petit rituel là, trivial. Je me gargarise, je me mouche une narine puis l'autre.
Oui, ça c'est important aussi. Hein. Ils le font en médecine ayurvédique traditionnelle. Hein.
Exactement. Oui. Et ensuite, je renifle et je recrache. Donc en fait, je nettoie mes voies aériennes supérieures en me réveillant. Oui, ça devient un automatisme.
Vous mouchez avec le Neti-Pot là, par exemple ce
Non, j'appuie sur une narine
tout simplement.
Et puis sur l'autre. Voilà. Tout simplement. D'accord. Très simple.
Oui.
Et c'est vrai que du coup, on respire bien, c'est super agréable.
Avant de se coucher, vous ne le faites pas ?
Je le fais aussi.
Oui, c'est ça, parce que c'est important pour bien, en fait, bien respirer.
Moi, j'étais allé en Inde suivre un stage de médecine ayurvédique. Et là-bas, ils ont l'habitude de prendre de l'eau tiède avec certaines huiles essentielles. On gonfle les joues, on se gargarise avec. Et ça agit comme un coup de frein sur l'appétit.
Oui. Et en plus, bah, forcément, oui, ça stimule le nerf vague.
Il joue sur le nerf vague,
on revient là-dessus. Alors, qui sont les amis de la flore intestinale? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, ce qui est fermenté, puisqu'on parle, on pense à nos Costaricains et leur café incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les aliments fermentés, on peut trouver du chou, on peut trouver des choses quand même assez facilement.
Il y a un truc formidable, la choucroute.
Oui, voilà, là, je pense à la choucroute.
Sans charcuterie.
Oui, ou un petit peu.
Non.
Même pas de charcuterie du tout?
Vous savez, une fois par mois, quoi. Mais la choucroute, 19 calories au 100 grammes, un aliment fermenté, pas cher du tout, ça coûte rien du tout. Et très, très utile.
C'est très bon. J'adore le chou. Les aliments fermentés, c'est vrai que c'est un peu moins dans notre culture que dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut les faire soi-même, les acheter tout faire, les trouver de qualité?
Oui, tout est possible. Ce qui est intéressant, oui, par rapport au centenaire, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est que aux quatre coins du monde, ils ont trouvé des trucs. Et j'ai voulu réunir toutes les bonnes recettes pour être centenaire sur la planète. Alors, c'est pour ça que j'étais il y a un an au Costa Rica. Alors, ils ont plein de recettes. Et je veux dire, toutes sont bonnes. Et quelque part, il faut plusieurs aliments fermentés. Parce que ça ne sera pas les mêmes ferments à chaque fois.
Parce que sinon, c'est toujours pareil. On va se dire, ah, il y a une panacée, on se jette dessus. Et en
voilà.
Fait, c'est pas
bon. En fait, c'est pas mal. Il y a des aliments coréens. Donc, se promener un petit peu et surtout l'adapter par rapport à vos goûts. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la choucroute, ben prenez autre chose, ainsi de suite.
Vous parlez aussi des amandes, de l'oignon, du thé vert, oui. On en a parlé, ça c'est bon pour la santé.
C'est excellent, les ouais. Amandes sans sel. Je précise, parce que vous savez, le sel c'est un vrai sujet. On consomme trop de sel. À travers tous les aliments, il y en a partout. Le sel donne de l'hypertension artérielle, des cancers de l'estomac et ça baisse l'immunité. Donc, quelque part, oubliez la salière. En plus, ça stimule l'appétit. Regardez au resto. Ils nous offrent souvent des petits cadeaux pour commencer. C'est toujours des olives, des crackers, des trucs salés. Et les restaurateurs disent oui, comme ça les gens ont faim et ils vont boire. Tombez pas dans le piège.
Merci de le rappeler, effectivement. Quelle est l'assiette idéale, vous qui avez qu'un repas par jour, comment elle se composerait?
Alors moi, il y a un aliment que j'aime beaucoup pour un peu briser le jeûne, c'est l'avocat. Parce que l'avocat a un effet anti-inflammatoire, comme s'il prolongeait un peu l'effet du jeûne. Et il joue sur la satiété. Il est anti-inflammatoire, c'est comme un peu le baume des intestins. Ensuite, l'assiette idéale, elle sera d'abord jamais la même tous les jours. Parce qu'il faut une alimentation diversifiée et variée. Donc un jour, ça va être des légumes, avec des poissons, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut varier. Éviter à fond le sucre. Le sucre, c'est un accélérateur du vieillissement, ça donne des rides. Vous savez, à l'hôpital, si je fais un PET scan, c'est un scanner pour chercher les cellules cancéreuses,
oui.
Je fais une intraveineuse de sucre, et après, s'il y a des cellules cancéreuses, elles rappliquent tout de suite, elles adorent le sucre. Donc, moins de sucre possible, c'est formidable. J'aime beaucoup le chocolat noir, très très noir, 90%.
Moi aussi, hélas.
Non, mais c'est très bon pour la santé.
Ah oui, mais j'en prends des quantités parfois un peu trop importantes.
Tout ça fait besoin. Moi, je sais que quand je suis un petit peu, j'ai eu un stress ou des choses, le chocolat noir m'apaise et me fait un bien fou. Et c'est pas dangereux du tout pour la santé.
Bon, très bien. Merci, docteur.
Et vous êtes mince, donc ça prouve que ça n'a pas d'effet.
Bon, ça va. Tout va bien. Vous évoquez aussi, je trouve ça intéressant, le psoas. On n'en parle peut-être pas assez de ce... quel est son rôle? Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent nous aider? On dit dans certaines cultures que c'est le siège de l'âme. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait où se situent les psoas. Hein. C'est de chaque côté des jambes, vraiment aux jointures. Hein.
Oui, quelque part, je veux dire que le psoas, c'est une réflexion. C'est que l'âme, le corps, c'est un ensemble. Et que trop de gens oublie de bouger. En particulier, les mouvements qu'on peut faire par rapport au psoas, il faut vraiment là le visualiser. Mais mouvement, je recommande dans le livre des mouvements.
Oui.
Je n'aurai pas le temps de faire de la démonstration tout
non,
de
non,
suite.
Non, mais on pourra peut-être les partager sur nos réseaux depuis le livre.
Mais c'est important parce que très souvent, les gens ont mal, sont contractés, tout simplement parce qu'ils oublient qu'on a plus de 600 muscles et il faut les détendre. Et si vous en servez jamais, ils se contractent et ils vous font du mal.
Oui, et c'est comme ça que le psoas se retrouve avec cette mauvaise réputation de devenir le muscle un peu poubelle, en fait.
Oui, c'est ça.
Corps, c'est ça. Hein.
Parce qu'on oublie, on le délaisse et il se venge.
Il se venge, pas bien. Alors, autre chose, vous en parlez deux fois dans le manuscrit. Vous parlez aussi, ça, je trouve ça intéressant, du virus de l'herpès, en disant que certains virus ont un tropisme pour les neurones qui sont situés sur les parois du rectum et de l'anus. Vous parlez de recherches récentes. Alors, voilà, je trouve ça quand même assez intéressant. Je ne sais pas si on a plus d'infos sur le sujet ou pas tant que ça.
C'est en recherche. Oui. Quelque part, on a des virus en nous, comme on a en nous des cellules cancéreuses. Et si vous savez, ce qui compte, c'est l'équilibre des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre de notre santé mentale intérieure joue sur la santé physique. Quand on est bien dans son corps aussi. Et on ne fait pas assez attention. On a des virus, on a des cellules cancéreuses, et notre équilibre est important. L'activité physique contribue à cet équilibre. Une bonne alimentation aussi, une bonne santé mentale intérieure joue. C'est d'ailleurs pour cela que les optimistes, les gens heureux, vivent plus longtemps.
D'ailleurs, vous le rappelez que chez les centenaires, c'est de ne pas se contenter de l'existant, mais toujours tenter de le dépasser. Donc, il y a vraiment cette idée du challenge, du défi, pas forcément dans une vision de performance, mais plutôt de jeu, quelque part.
De jeu, ils jouent. Et les gens, vous savez, on vieillit le jour où on arrête de jouer. Et les gens, ils se prennent tellement pour des grandes personnes sérieuses qu'ils vieillissent en accéléré. Il faut, pour, freiner le vieillissement, retrouver l'espièglerie de l'enfant et de l'ado qu'on était.
Oui, c'est ça. Vous dites que le toucher aussi est essentiel. Alors, on pense au jeu, on pense évidemment aux relations intimes, à la sexualité, mais pas simplement, pas, sans aller dans cette sphère-là pour le moment, simplement le toucher, les câlins, se prendre dans les bras, etc.
Vous savez, c'est important, dans l'horreur de la dernière guerre mondiale, les nazis avaient pris des bébés avec interdiction de les toucher, ils sont tous morts. Dans les expériences horribles qui sont faites. Le toucher est vital. Et quand on ne vous touche plus, vous n'êtes pas bien. C'est vrai que déjà le hug qu'on fait aux États-Unis, qui est simplement est important, les gens ne sont plus touchés, à part le coiffeur. C'est pour ça que les massages sont tellement importants. Je recommande aux couples de se masser l'un l'autre, et quand ils peuvent, de prendre quelqu'un pour se masser. Ça détend complètement. Ça peut faire circuler des énergies. Et le toucher est une forme de communication très importante. On communique par la parole, par le regard, mais le toucher est une voie de communication tellement importante.
Chez ces centenaires que vous avez observés, il y a aussi une vie sociale qui est très riche, c'est-à-dire qu'il y a du lien, et ça c'est important.
Il y a beaucoup de liens. Ils ne sont pas derrière des écrans virtuels. Ils communiquent pour de vrai, ceux qui vont bien. Ils ont une vraie vie sociale, ils communiquent, ils bougent, ils s'intéressent, ils sont curieux et joueurs.
C'est ça. D'ailleurs, dans notre dernière émission, j'avais été absolument stupéfaite par cette étude dans votre livre. Peut-être on peut le rappeler, chez des retraités, il y a eu trois groupes différents qui ont été analysés. Ceux qui ne faisaient rien, ceux qui avaient une activité un peu de passe-temps, golf, etc. Et puis ceux qui étaient encore en activité professionnelle. Et je me souviens qu'il y avait des résultats absolument spectaculaires.
En fait, on s'est aperçu que, quelque part, alors, il y a un lien entre notre activité mentale et notre système immunitaire. Soit que beaucoup de gens, quand ils partent en retraite, meurent plus vite. En fait, on s'est aperçu que des gens qui ont des activités bidons, genre, vous savez, voilà, depuis que je suis en retraite, j'ai plus une seconde.
Voilà, c'est ça.
Le golf, le brick, l'association des petits chevaux, les petits enfants. Attendez, c'est pire qu'avant, mais j'ai plus une minute.
Vous le faites bien.
Le cerveau dit bidon. Tu mens aux autres en faisant croire que tu fais quelque chose, mais tu fais plus rien du tout. Tu te mens à toi-même aussi. Et ça te décroche comme les gens qui font rien du tout, qui sont abâchés dans leur canapé.
Je me souviens, c'est hallucinant.
Par contre, les gens qui disent qu'ils ont une vraie activité, qu'un petit peu d'adrénaline, eh bien, ça marche. L'absence de stress complète, c'est ce qu'ont montré une étude allemande, fait mourir plus vite. Donc, en fait, on a besoin d'un petit peu de tension pour avoir un sens vrai dans sa vie. On ne peut pas mentir à son système immunitaire.
Donc là, le fake it until you make it, c'est-à-dire faites semblant et ça va, en fait, le corps va le comprendre, là, ça ne fonctionne pas du tout.
Non, il faut une vraie activité. Alors, quand professionnellement, par alors que ça s'arrête, on peut tellement faire dans le monde associatif pour les autres. Tellement. Donc, il faut des vraies activités et pas du bidon.
Alors, on parle de tellement de sujets que je me suis perdue en chemin. Peut-être qu'on peut parler justement de... Alors, on a parlé de l'optimisme. Donc, ça, c'est un point important. Comment est-ce qu'on peut cultiver l'optimisme? Alors, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde de voir la vie en rose. Déjà parce que chez certains, la peur de vieillir. Il y a des gens qui sont seuls, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer rester dans cette vision optimiste de la vie?
Vous savez, c'est comme par rapport au stress. C'est pas le stress qui compte, c'est l'interprétation qu'on en fait. Imaginez, vous êtes en voiture, et puis d'un seul coup, quelqu'un vous fait une queue de poisson. Vous êtes stressé, vous le détestez. Vous êtes prêt à hurler. Vous êtes dans la colère. Pas bon pour la santé.
Non.
Si vous dites, ça se trouve, cette personne qui m'a coupé la route amène son enfant qui va très mal en urgence à l'hôpital. D'un seul coup, vous n'êtes plus en colère. J'ai bien fait de freiner pour le laisser passer. Donc, en fait, par rapport au stress, comme par rapport aux événements, il faut savoir les réinterpréter autrement. Mais ça fait un bien.
Ça, c'est une gymnastique de l'esprit.
Oui, ouais. C'est une vraie gymnastique.
Ouais.
Et c'est ta petite chose que j'explique dans le livre. Par exemple, si vous êtes un peu speedé, parlez de vous à la troisième personne. Comme si vous étiez au-dessus. Ça y est.
Oui, c'est vrai, vous dites ça. Oui.
Donc, en fait, c'est des réflexes qui vont faire que même face à un événement qui va être triste ou autre, vous le réinterprétez autrement.
Là encore, vous aviez déjà cette nature ou c'est des choses que vous avez appris avec le temps?
Ouais. J'ai appris.
Ouais. Et cette sagesse vous fait du bien?
Oh là là!
Ça vous a changé les choses?
Oui, parce que ça donne une énergie. J'ai une énergie avec tout ce... Quand vous appliquez tout ce que j'explique, c'est ce que me disent mes lecteurs. Vous nous apportez une énergie incroyable.
C'est incroyable. On dit d'ailleurs que les individus optimistes vivent en moyenne 7 ans de plus que les autres.
Tout à fait.
Ça fait envie.
Ben, c'est normal parce que les autres se bouffent de l'intérieur avec du corps en sécrétant des hormones corrosives.
Oui. Alors, autre chapitre, vous revenez sur la sexualité qui, selon vos mots, est un concentré de joie de vivre et de bonne santé. Est-ce que toutes ces voies tantriques dont on avait un peu parlé, vous revenez dessus dans ce livre, mais peut-être de manière un peu plus approfondie, c'est important. On sait qu'aujourd'hui, la sexualité, l'intimité des Français, et je crois partout dans le monde, en tout cas là où il y a beaucoup d'écrans, diminue.
Oui, parce que c'est quelque chose vraiment de triste. On voit que les jeunes ont de moins en moins de rapports sexuels dans les couples. Alors moi, j'ai essayé de discuter avec eux. Ils me disent, oui, c'est mieux sur les écrans. Sexualité, alors on sait qu'il y a eu plein d'études qui montrent que ça augmente l'espérance de vie en bonne santé. Et la masturbation marche nettement moins bien. Vous savez, le test est tout simple. Si je vous chatouille, vous allez rire. Si vous chatouillez, vous ne riez pas du tout. Donc, les hormones qu'on libère, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, il y a un cocktail qui se fait, qui sont bénéfiques, ce n'est pas de la même façon.
C'est le même truc que les retraités, là, ce qu'on disait tout à l'heure.
En fait, exactement.
C'est le même phénomène.
Et puis, pour de vrai, ne pas faire semblant.
C'est ça, on revient toujours à la même chose.
Et en sexualité, quand on a la chance d'avoir une personne partenaire avec qui ça fonctionne, mais c'est formidable. Et c'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui est important. On peut mener dans le couple une sexualité très 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 longtemps parfaite. C'est juste une question de connaissance aussi.
Et puis d'avoir envie à deux peut-être de s'élever dans cette direction.
De s'élever, moi je me suis intéressé beaucoup au tantrisme, c'est une forme de sexualité très ancienne qui a des milliers d'années en Inde. Alors c'est particulier, c'est qu'on demande à l'homme de se retenir d'éjaculer pour célébrer le corps de la femme le plus possible et arriver à rejoindre par la sexualité un seuil de spiritualité. Pour cela, il y a des techniques très simples que j'explique, d'écartement des cuisses, etc. chez l'homme qui permet de maîtriser son éjaculation. Ça, c'est techniquement, je l'explique, on peut le faire facilement. Et on s'aperçoit qu'on monte le seuil du plaisir, de l'énergie et de la spiritualité. Et c'est des fois intéressant, c'est-à-dire que je déteste la pornographie, ce qui est vulgaire, mais la sexualité au sens noble du terme est une voie formidable d'accès à une part d'éternité et de spiritualité.
D'ailleurs, on a parlé un petit peu de religion tout à l'heure et de la foi au début de cet épisode, mais vous avez remarqué que les personnes qui ont une vie intérieure riche, quelle que soit finalement leur croyance, se portaient mieux. Alors, en lien ou pas avec la sexualité, mais en tout cas dans une forme de transcendance.
La spiritualité, au sens religieux ou non religieux du terme, fait vivre beaucoup mieux, plus harmonieusement, plus on est en bonne santé. Mais ça nécessite, quelque part, je rêve un jour qu'en éducation nationale, on apprenne à être en bonne santé.
Bah oui.
C'est ce que j'essaie de passer par mes livres. Parce que les gens, ce que j'explique n'est pas enseigné. Or, c'est essentiel parce que c'est des règles pour vivre beaucoup mieux et pas seulement ajouter des années de vie, ajouter des années de bonheur et de bien-être avec une nouvelle énergie.
Vous enseignez à la faculté ?
Alors, j'ai enseigné, moi, j'ai enseigné aux États-Unis comme prof, en particulier en nutrition. C'est là-bas, d'ailleurs, où j'ai appris. Parce qu'aux États-Unis, pour enseigner, je me rappelle le premier cours, le doyen m'avait dit, vous savez, ici, les étudiants sont des clients.
Oui.
Ils payent. Ce n'est pas comme en France. Et donc, vous devez les faire rire, c'est un spectacle. Je me rappelle le premier cours, je suis arrivé avec un béret, un litre de rouge, une baguette, et j'ai dit, I'm the French teacher.
Il fallait faire le show, quoi.
J'ai fait le show, et d'ailleurs, je peux vous le dire, c'est là-bas où j'ai appris à faire des livres grand public où il pouvait rire les gens, être simple. Et c'est pour ça que mes bouquins sont traduits à peu près dans une quarantaine de langues aujourd'hui. Parce qu'il faut faire rire pour que ce soit léger. Le livre doit être aussi facile à lire.
Je me souviens, peut-être je vous l'ai déjà partagé, mais à l'époque, j'ai beaucoup interviewé David Servan-Schreiber, qui me disait, quand j'enseigne à des premières années ou deuxième année, ils sont émerveillés par ce que je dis, ils m'écoutent. Et puis quand on est en dernière année, en fait, j'ai perdu un peu tout le monde, ils ne s'intéressent plus trop à ces sujets-là. Ils sont déjà dans le tunnel.
Oui, je sais, quand je l'ai connu, c'est quelqu'un de formidable. Parce que j'avais écrit un livre il y a très très longtemps qui s'appelait Oméga 3, il avait repris les choses, qui étaient sorties d'ailleurs aux États-Unis. Et je le rejoins complètement là-dessus. Et quelque part, quand on est dans le tunnel, on se rétrécit.
C'est ça. Donc, il y a cette ouverture aussi à apporter peut-être un travail à faire auprès des étudiants, sachant que la médecine a aussi d'autres problèmes à gérer, de carences, etc. Donc, ils ont le sentiment que la prévention, on verra ça plus tard.
La prévention, c'est le parent pauvre.
Oui.
Et moi, je me bats depuis toujours là-dessus, avec 95% d'échecs, mais je continue.
Alors qu'en fait, ça pourrait aussi participer à régler notre problème de la médecine.
Parce que la médecine préventive, elle n'est pas chère. La médecine curative, elle est très chère.
Bien sûr.
Mais j'ai l'impression de me battre tout seul sur un terrain.
Non, on est là.
Ouais, mais c'est pour ça que je suis ici pour ça.
Ben voilà, il y a les médias, il y a vos livres, vous dites traduits en 40 langues. Donc les gens sont intéressés quand même.
Oui. Je suis très content de voir une communauté qui me suit.
Oui.
Et d'ailleurs, quand je fais des signatures, je dis pourquoi vous achetez mes livres ? Et j'ai à peu près tout le temps la même réponse, les gens me disent. Parce qu'à chaque fois que j'achète un de vos livres, je change plusieurs choses dans ma vie. C'est pour moi, c'est cadeau, j'ai envie de les embrasser.
Ouais, c'est gratifiant parce que le sens profond du métier de médecin est vraiment là, en fait.
Hein, donc j'essaie de d'œuvrer avec toute mon énergie pour la prévention, pour éviter que j'en sois malade.
Vous êtes fidèle au serment d'Hippocrate.
Ah oui, c'est ça. Ma vocation.
Ouais. Merci infiniment. En tout cas, c'était une nouvelle fois vraiment un plaisir de vous recevoir dans Métamorphose. Et pour parler de votre nouveau livre, je rappelle son titre, Votre avenir sur ordonnance, paru aux éditions Robert Laffont. Je crois que c'est votre 17e livre, c'est bien ça ?
Exactement.
On a fait le compte. Ouais. Alors, je rappelle qu'on a fait déjà des épisodes précédents. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. On a fait un épisode sur le coronavirus, les bonnes pratiques d'hygiène, et puis le dernier, La santé devant soi, qui était le titre de votre livre précédent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est un plaisir.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.